Démarrer cette matinée ensemble. Bonjour Anne.
Bonjour Claire, bonjour tout le monde.
Aujourd'hui, on va aller faire un petit tour en forêt malgré le temps maussade. On va anticiper sur les prochains jours de beau temps puisque le soleil devrait s'installer à partir de cet après-midi et demain. Anne, est-ce que vous allez souvent vous balader en forêt à la maison? Quel est votre endroit préféré dans nos deux Charentes? Qu'est-ce que vous pensez aussi de la loi qui vous oblige à tenir votre chien en laisse sur une certaine période de l'année sur ces balades en forêt qui a beaucoup fait parler ces derniers temps? À quoi faites-vous attention aussi lors de vos balades en forêt? Est-ce que vous êtes attentif à la faune, à la flore, à ce qui vous entoure? Venez témoigner ce matin et posez vos questions au 05 46 50 67 68.
À votre service, avec les résidentiels. Résidence Service Senior, 8 route de Rochefort à Saint-Sulpice de Royan. Plus d'infos sur www.residentiel.fr.
On en parle avec notre invité, c'est Antoine Bled qui est avec nous ce matin. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Merci d'être là. Vous êtes le directeur de l'agence territoriale Poitou-Charentes pour l'ONF, l'Office national des forêts. Comment se portent-elles justement nos forêts aujourd'hui? Là, nous sommes le 7 mai.
Alors,
est-ce qu'elles vont bien? Est-ce qu'elles ont eu assez d'eau, par exemple? On parle de pluie.
Voilà, comme ça vient d'être illustré, effectivement, elles ont été bien arrosées en cette période automnale, hivernale et puis même en ce début de printemps. Donc les forêts de Charente-Maritime se portent plutôt bien, et puis elles avaient besoin d'eau hein, après trois années assez sèches finalement. Donc elles ont bien reverdi, et du coup le printemps est assez sympathique en ce moment en forêt.
C'est plutôt une bonne nouvelle. On sort aussi de l'épisode du muguet, si on fait bien un petit retour. Est-ce qu'il a été très présent? Est-ce qu'il était peut-être un peu plus précoce aussi que les années précédentes?
Oui, alors le muguet était un tout petit peu plus précoce que les années précédentes, et du coup on a pu voir ses clochettes pointer le bout de son nez voilà, plutôt autour de fin avril que début mai. Et du coup, voilà, on a vu quelques promeneurs, cueilleurs de ce muguet qui ont pu profiter de son doux parfum.
Alors on parlait justement, vous donniez l'exemple Chloé, cette loi qui interdit voilà les propriétaires de chiens justement, enfin il faut qu'on tienne nos chiens en laisse entre voilà une période de l'année. C'est quelque chose effectivement qui a fait beaucoup réagir. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire vous Antoine Bled aujourd'hui?
Alors en fait c'est une loi qui est assez ancienne hein, puisque c'est une loi de 1955 et donc elle a un objectif qui est assez simple, hein, c'est de préserver finalement la reproduction d'un certain nombre d'espèces qui profitent de la période printanière pour du coup trouver gîte plutôt au sol. Et du coup on a un certain nombre d'espèces protégées, notamment des oiseaux emblématiques de la Charente-Maritime comme le gravelot à collier interrompu qui niche plus particulièrement sur voilà les dunes blanches et grises de nos forêts de Charente-Maritime. On a aussi l'engoulevent d'Europe et puis quelques espèces comme les grands ongulés, notamment le chevreuil, qui sont assez fragiles en cette période.
Oui, pour éviter en fait que tout ça soit dérangé, pour mieux respecter aussi.
Voilà, c'est ça. En fait, l'idée, c'est vraiment de ne pas déranger les espèces et donc de respecter, outre cette loi, de respecter du coup l'utilisation des chemins prévus à cet effet. Du coup, quand vous promenez en forêt, c'est vraiment important de respecter les chemins, d'abord pour pas vous perdre, et puis ensuite pour éviter de déranger ces espèces faunistiques et floristique, puisqu'on a aussi un certain nombre de plantes qui sont protégées et qui doivent être du coup bah voilà respectées avec attention.
Et globalement, est-ce que c'est plutôt bien respecté vous en tant que voilà directeur justement de l'ONF en région Poitou-Charentes, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Alors globalement, c'est plutôt bien respecté. On a quand même eu une période finalement de retour à la nature après les différentes périodes de confinement là, suite à la crise Covid. Et donc on a dû rappeler les règles et usages par rapport au cheminement en milieu naturel et plus particulièrement en milieu forestier. À partir du moment où c'est bien expliqué, où du coup les promeneurs comprennent la fragilité du milieu dans lequel ils évoluent, on arrive à avoir quand même un respect à hauteur de 90-95% des promeneurs. On a toujours voilà quelques récalcitrants ou tout simplement quelques personnes qui sont pas forcément au courant et du coup qu'on va sensibiliser au milieu qu'ils traversent et qu'ils découvrent.
On vous emmène en forêt ce matin sur France Bleu La Rochelle. Est-ce que vous avez l'habitude d'aller vous balader en forêt? Quels sont vos coins préférés dans nos deux Charentes? Venez nous le dire et nous dire si vous faites attention aussi à la faune, à la flore qui vous entoure lors de ces balades. Qu'aimez-vous observer? 05 46 50 67 68. Vous pouvez aussi poser vos questions à notre invité Antoine Blett, qui est directeur de l'agence territoriale Poitou-Charentes pour l'ONF, l'Office national des forêts. Écoutez, à votre service, on parle des forêts ce matin et notamment de l'Office national des forêts avec Antoine Blett qui est à nos côtés, directeur de l'agence territoriale pour le Poitou-Charentes. Et vous, quels sont vos coins de balade préférés dans nos deux Charentes? Est-ce que vous rendez souvent en forêt? Qu'est-ce que vous aimez observer en forêt? Est-ce que vous faites attention aux oiseaux, à la faune, à la flore, à qui vous entoure? Vous témoignez ce matin en nous appelant au 05 46 50 67 68.
Est-ce que vous prenez le temps, Antoine Blett, justement, d'aller vous balader en forêt, d'aller observer, d'aller voir ce qui se passe et de comprendre aussi les écosystèmes?
Ah oui, bien sûr, ça fait partie intégrante du travail du forestier. Et je dirais qu'en tant que directeur, j'ai toujours plaisir du coup à aller sur le terrain et puis à rencontrer les équipes de l'agence territoriale Poitou-Charentes de l'ONF, que je tiens d'ailleurs à remercier pour la qualité du travail qu'ils peuvent fournir, notamment toute l'équipe en Charente-Maritime, puisque nous avons la chance de gérer finalement les milieux naturels littoraux, hein, donc toutes les forêts de protection que vous connaissez bien et qui font rêver, la forêt domaniale de la Coubre, les forêts domaniales de l'île d'Oléron, et puis la forêt domaniale aussi de l'île de Ré, pour parler du littoral. Et puis à l'intérieur des terres, on a aussi la chance, sur une petite partie de la Charente-Maritime, de recevoir la plus grande réserve biologique intégrale de feuilles de plaine de France, la réserve biologique intégrale de Chizé, qui est partagée entre le département des Deux-Sèvres et le département de la Charente-Maritime. Et puis on a aussi les bois de Benon, qui sont voilà, à quelques kilomètres de La Rochelle et qui sont assez visités, assez sympas.
Il y a de quoi faire. Comment est-ce que, enfin, la question paraît peut-être simple, mais comment ça fonctionne justement toutes ces étendues en fait, comment cette symbiose opère justement en forêt, comment tout est lié? Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Alors, comment tout est lié? Ouais. En fait, voilà, l'écosystème forestier, il faut savoir que c'est l'écosystème sur Terre le plus riche, avec une diversité de milieux qui est absolument remarquable. Et donc, la force, finalement, des forestiers, c'est de prendre l'intégralité, en fait, de ces composantes. Hein, on pourrait l'appeler une mosaïque d'habitat ou une forêt mosaïque pour la gérer au mieux. Donc, pour ça, en fait, on va réaliser ce qu'on appelle des documents d'aménagement forestier, donc des documents de gestion qui vont, sur le périmètre de ces forêts publiques, identifier voilà les habitats, les espèces présentes et proposer du coup un programme de travaux et de gestion sur généralement un pas de temps d'une vingtaine d'années. Et donc ce qui est très important finalement en tant que forestier et gestionnaire de milieux naturels, c'est de se projeter, parce qu'on a un métier de transmission et c'est ça qui est le plus important. C'est transmettre finalement cette gestion et les milieux naturels associés aux générations futures.
On en parlera évidemment au cours de cette émission. Vous nous avez donné deux exemples, Antoine Blett, il y a quelques minutes, voilà, d'espèces relativement rares que l'on peut voir. Est-ce que vous pouvez nous les citer?
Oui, alors on a la chance à l'ONF d'avoir des habitats remarquables, et on accueille du coup des espèces animales assez remarquables, comme le cirquette Jean Leblanc, qui est un rapace emblématique de la Charente-Maritime et qui adore finalement l'alternance de milieux, puisqu'il va nicher finalement au sommet de nos pins maritimes, hein, les plus vieux pins maritimes qui font, comme on le dit, la table, et il va chasser en fait sur les milieux ouverts. Donc il a besoin d'une alternance de milieux forestiers avec des milieux ouverts. Pourquoi? Parce qu'il va se nourrir essentiellement de reptiles, de serpents plus particulièrement, mais aussi de lézards. Et donc il va vivre sur son pin, et il va aller chasser en milieu plus ouvert, sur des milieux de landes ou c'est sur des zones de régénération de jeunes forêts.
Et ça va, il trouve de quoi manger, ce cirquette Jean Leblanc.
Grâce à notre mission protection d'intérêt général, biodiversité et paysage, en fait, on a la chance de pouvoir observer ces circuits en lien aussi avec notre partenaire l'ALPO. Et du coup, on se rend compte qu'ils reviennent chaque année. Et donc, c'est plutôt un signe d'épanouissement de l'espèce et de bonne santé. Et puis surtout, à partir du moment où on sait qu'il est présent, donc on en a notamment sur le massif de la Coubre, on va mettre en place finalement des périmètres de quiétude autour des espaces de nidification de cette espèce pour éviter de le déranger, que ce soit par rapport à des travaux forestiers réalisés ou à des opérations de valorisation de bois ou tout simplement pour informer que du coup on est sur une zone de quiétude.
On s'intéresse à nos forêts ce matin sur France Bleu La Rochelle. Les forêts de nos deux Charentes, est-ce que vous avez l'habitude de vous y balader? Quels sont vos endroits préférés? On les a cités, ces forêts. Est-ce qu'il y en a une que vous affectionnez plus que l'autre? Racontez-nous pourquoi ce matin sur France Bleu. On en parle avec Antoine Blette, directeur de l'agence territoriale Poitou-Charentes pour l'ONF, l'Office National des Forêts. Et avec vous, au 05 46 50 67 68, vous pouvez aussi poser vos questions sur les forêts s'il y a des choses qui suscitent votre curiosité notamment. Au service jusqu'à 10h pour parler de nos forêts. Il y a de quoi faire dans nos deux Charentes avec plein de choses à voir et à observer. Vous pouvez d'ailleurs nous appeler pour témoigner, nous raconter vos habitudes de balade en forêt au 05 46 50 67 68. Nous sommes toujours avec Antoine Blette qui est directeur de l'agence territoriale Poitou-Charentes pour l'ONF, l'Office National des Forêts.
Alors c'est vrai qu'il y a les balades et puis peut-être aussi que vous aimez bien en forêt prendre des photos. On sait qu'il y a des ornithos voilà, qui nous écoutent, donc je suis sûre qu'il y a sans doute de jolis témoignage à faire ce matin. Il y a aussi un fameux lézard, Antoine, que nous avons la chance d'avoir dans voilà, notre région. Quel est son nom?
Alors ce fameux lézard, en fait, c'est le plus grand lézard européen. Il s'appelle le lézard osselet. Et donc, il a la particularité en fait d'utiliser les anciennes garennes des lapins comme espace de nidification. Et donc, on peut le retrouver sur certains secteurs bien gardés sur la Charente maritime.
Vous avez déjà eu la chance d'en voir un ou pas?
Alors, j'ai eu la chance de pouvoir voir cette espèce une fois dans un espace assez insolite, hein, puisque il s'agit du camp militaire de Bussac, puisque ce camp militaire, en tout cas, les parties naturelles sont gérées par l'ONF, et donc il y a un programme de restauration finalement des garennes à lézard osselet qui accueille du coup les dernières populations de ce lézard, plus particulièrement sur le secteur de Bussac. Puis il y en a un petit peu aussi ailleurs, mais sur des lieux tenus secrets.
Évidemment.
Mais il se développe quand même encore un peu ou c'est vraiment menacé?
Alors il a beaucoup, enfin voilà, il a quand même pas mal de difficultés puisque les populations de lapins diminuent. Ce lézard, du coup, voilà, voit aussi ses populations légèrement diminuer, mais grâce à la mission d'intérêt général de biodiversité, biodiversité et paysage de l'ONF, en fait, on fait de la restauration d'habitat pour cette espèce emblématique hein, au niveau national. Hein, elle est classée au niveau national, ce qui permet justement de maintenir les populations.
Donc si vous voulez aller voir des photos, franchement, c'est impressionnant. Lézard osselet, O-C-E-2-L, E accent aigu, c'est assez impressionnant à voir. Est-ce que la technologie de pointe, c'est utile dans votre métier? Par exemple, est-ce qu'on scanne les forêts en 3D pour vous parler de l'après, aussi pour les générations futures?
Oui, alors du coup, lorsque nous rédigeons les documents de gestion forestiers, on utilise maintenant ce qu'on appelle le LIDAR. Donc c'est pour les marins en fait c'est un système finalement de sonar aérien où finalement un récepteur porté par un vecteur, donc c'est un avion, un ULM ou bien un drone, scanne en fait l'ensemble d'un massif forestier et ça permet si vous voulez d'avoir une cartographie 3D du massif forestier en question. Nous l'avons par exemple réalisé sur la forêt domaniale de la Coubre et ce qui nous a permis d'identifier vraiment ce qu'on appelle les modèles numériques de hauteur, donc la hauteur des peuplements forestiers, mais également les modèles numériques de surface. Et donc on a pu identifier de manière très précise l'histoire de la forêt. On retrouve de manière assez précise, c'est assez bluffant, finalement des zones de bombardement où on a encore les zones vraiment d'explosion avec les cratères qui sont très visibles d'un point de vue aérien. Et ce sont de précieuses finalement technologies d'aide à la décision qui nous permettent de cibler finalement nos opérations d'inventaire de terrain pour cartographier et du coup mieux connaître nos massifs forestiers, notamment leurs essences, leurs possibilités et puis leur potentiel de biodiversité et de croissance.
On va continuer à parler de nos forêts. Oui, c'est impressionnant. On continue à en parler. Peut-être que ça vous amène des questions. Vous aussi à la maison, vous souhaitez en savoir plus sur nos forêts dans nos deux Charentes. Appelez-nous ce matin au 05 46 50 67 68 pour poser vos questions, apporter vos témoignages autour de nos forêts à Antoine Bled, directeur de l'agence territoriale Poitou-Charentes pour l'ONF, l'Office national des forêts. 05 46 50 67 68. Vous êtes les bienvenus.
Oui, et on peut pas faire une émission sans parler des pins maritimes. Quand même, ils sont nombreux. C'est important aussi de faire le point, faire un état des lieux, Antoine.
Oui, donc le pin maritime, c'est quand même l'essence majoritaire en Charente-Maritime. On est sur en plein air de répartition géographique du pin maritime. Et donc ce pin maritime, il a été implanté finalement de manière totalement artificielle sur le secteur de la Charente-Maritime, plus particulièrement sur le massif de la Cour et aussi à l'intérieur des terres, avec d'abord un objectif de protection, c'est-à-dire que sur la forêt de la Coupe, sur les forêts d'Oléron et puis sur Ré. L'objectif, c'était de tenir le sable afin qu'il évite de coloniser finalement les campagnes et l'intérieur des terres. Et donc, la forêt de la Coubre, elle a été plantée dans les années 1850 avec d'abord un objectif de fixation du sable, mais aussi un objectif de production de gomme dans un premier temps et dans un second temps de production de bois d'œuvre de qualité, donc pour la construction, le déroulage, la caisserie, la palette, etc. Et donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir des peuplements de pins maritimes qui sont en bonne santé, qui ont été bien arrosés là sur la période automnale, hivernale.
J'allais vous poser la question.
Mais sur lesquels, il faut porter une attention particulière. Et donc, on a à ce titre le département de la santé des forêts qui, avec un consortium de forestiers, forestiers publics, forestiers privés, qui est piloté du coup par l'État et les régions, qui observe finalement l'état sanitaire de nos massifs forestiers. Et j'ai eu la chance de les accueillir en forêt de la Coubre début avril. Et globalement, les forêts de Charente-Maritime se portent plutôt bien en cette saison.
Et quand ça va mal, parce que ça peut arriver, Antoine Belt, que se passe-t-il ensuite? Comment font les équipes? Est-ce qu'il y a un mode opératoire qui est mis en place?
Oui, alors aujourd'hui, si vous voulez, cette observation permet de déclencher finalement des alertes et du coup d'identifier des foyers potentiels de ravageurs, des foyers potentiels de champignons lignivores, c'est-à-dire des champignons qui mangent le bois, et du coup de prendre les dispositions nécessaires pour accompagner les peuplements forestiers dans la lutte face à ces ravageurs. Donc c'est d'abord de l'observation. Le métier de forestier, c'est d'abord un métier d'observation. Ensuite, lorsque les foyers sont identifiés, on va mobiliser les bois avant que ceux-ci ne se déprécient. Certains peuvent même être laissés sur place au titre de la biodiversité, puisqu'il y a un certain nombre de vieux bois entre 3 et 4 arbres à l'hectare qui sont laissés au titre de la biodiversité. Et ensuite, le bois va être valorisé. Donc, ce qui est très important par rapport à ces ravageurs, c'est de maintenir finalement ce système de veille, parce que vous n'êtes pas sans savoir, et puis les auditrices et les auditeurs aussi, que les effets du changement climatique font qu'un certain nombre d'espèces, pas le pin maritime, mais d'autres, vont arriver finalement à une situation d'inconfort climatique, et donc on doit surveiller ça pour privilégier celles qui seront adaptées dans les 50 à 100 ans qui vont venir devant nous.
Et on va continuer à en parler dans un instant sur France Bleu La Rochelle. On s'intéresse à nos forêts et à ceux qui la peuplent dans nos deux Charentes, aussi bien la faune que la flore. Ce matin avec Antoine Blette, directeur de l'agence territoriale Poitou-Charentes pour l'ONF, l'Office National des Forêts. Et avec vous aussi, posez vos questions, apportez vos témoignages sur nos forêts au 05 46 50 67 68. Il est 9h44 et on s'intéresse à nos forêts ce matin avec Antoine Blette, directeur de l'agence territoriale Poitou-Charentes pour l'ONF, l'Office National des Forêts. Et puis avec vous aussi au 05 46 50 67 68, venez nous dire ce que vous pensez de nos forêts des deux Charentes.
Bonjour Lionel.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin,
bonjour,
sur France Bleu La Rochelle.
À vous.
On vous écoute, vous aviez une question en fait sur les coupes des forêts ou une,
oui,
forêt en particulier.
Ben, une forêt tout simplement parce que j'habite une grande partie de l'année sur Oléron. On est riverain de la magnifique forêt domaniale du sud d'Oléron. J'habite à Grand Village, plage. Et bien sûr, on adore se promener, profiter de cette magnifique forêt, avoir les chevreuils et autres bêtes, y compris d'ailleurs le lézard osselet que j'ai rencontré une à deux fois dans les dunes.
Oh, wow. Oh là là, Lionel, incroyable.
Et d'ailleurs, je crois que sur Oléron, l'ONF avait fait des zones de protection pour ce lézard, il me semble. Hein. Parce que j'ai rencontré deux ou trois fois la personne sur Oléron qui s'occupe de l'ONF, une personne d'ailleurs, bon, j'ai oublié le nom, mais qui est une personne tout à fait sympathique, qu'on a rencontré plusieurs fois en forêt. Alors ma question, si je peux la poser, c'est souvent, on voit des coupes qui sont faites, d'ailleurs, en ce moment, depuis plusieurs années, assez sévères d'ailleurs, où les pins sont souvent enlevés, relativement peu remplacés. Donc je voulais savoir comment a été faite cette décision, comment a été prise cette décision. Et alors on n'a pas de publicité d'ailleurs pour le grand public là-dessus. Et je voulais savoir, comme l'ONF, je pense, comment sous-traiter des travaux, voilà, d'une part, et d'autre part, je ne sais pas si je peux poser la question, savoir sur le plan financier si l'ONF était en bonne santé.
Alors, voilà. Merci Lionel pour vos questions. On va laisser Antoine Blette répondre. Antoine.
Merci, c'est gentil.
Oui, bonjour Lionel. Alors d'abord, effectivement, on a un programme de préservation du lézard osselet sur l'île d'Oléron et on mène un programme de restauration d'habitat du lézard osselet et on va même jusqu'à proposer des gîtes finalement artificiels à ce lézard qui sont fabriqués en bois et qui sont logés dans la dune grise pour permettre à ce lézard de s'y réfugier. Et puis le collègue dont vous parliez, c'est mon collègue Laurent Ferchaud, que je salue par ailleurs, qui mène remarquablement bien ce suivi d'espèces et puis cette restauration d'habitat. Alors en ce qui concerne les coupes sur les forêts, notamment les forêts domaniales et notamment la forêt domaniale de l'île d'Oléron, elles sont régies par les documents d'aménagement forestier, c'est-à-dire c'est des plans de gestion qui, en fonction de l'analyse des peuplements forestiers, nous permettent de définir un programme de coupe et de travaux. Donc les coupes, c'est finalement ce qui va permettre de valoriser le bois, donc le bois ensuite est commercialisé le plus localement possible, et les travaux, c'est ce qui va nous permettre de régénérer la forêt. Et donc, si Lionel, vous ne voyez pas forcément de plantation après les coupes, c'est que bien généralement, on privilégie la régénération naturelle et qu'il faut à peu près 2 à 5 ans pour qu'une régénération naturelle, notamment de pins maritimes, puisse s'installer correctement. Et donc, si cette régénération de pins naturels ne vient pas, alors on va proposer finalement une plantation pour permettre à l'écosystème forestier d'avoir une petite béquille et donc un soutien dans ce renouvellement forestier.
Et il y avait, je crois, un dernier aspect, Lionel, que vous avez posé. Comment se portent les finances, non, de...
Oui, parce que l'ONF est un organisme d'État. Bon,
oui.
J'ai quelqu'un de ma famille qui a travaillé jeune à l'ONF et me disait, bon, Voilà, enfin bon, je laisse parler.
Oui.
Alors, en ce moment, on est dans une période qui est plutôt favorable, c'est-à-dire que le marché du bois se porte plutôt bien, notamment le marché du chêne de qualité, le marché du résineux, voilà, se stabilise, et puis on a le soutien finalement par rapport aux effets du changement climatique de l'État, et donc on a aussi la possibilité, on a eu grâce à la mission d'intérêt général de défense des forêts contre les incendies, la possibilité de recruter des techniciens forestiers territoriaux spécialisés, hein, pour finalement la surveillance de nos massifs forestiers. Donc je dirais que l'ONF se porte plutôt bien et qu'il faut continuer à porter une attention particulière à l'ONF.
Merci beaucoup Lionel, en tout cas pour vos questions qui étaient très, très intéressantes. Merci.
Merci.
Merci à vous surtout. Merci beaucoup.
Bonne journée.
À très bientôt.
Au revoir.
On continue à parler de nos forêts dans un instant avec Antoine Blett, directeur de l'agence territoriale Poitou-Charentes pour l'ONF, l'Office national des forêts. Si comme Lionel, vous avez des questions à poser, des témoignages à apporter sur votre relation, si vous avez l'habitude d'aller faire des balades en forêt, venez nous raconter ce matin 05 46 50 67 68. On est à votre service et on s'intéresse ce matin à nos forêts avec Antoine Blett, directeur de l'agence territoriale Poitou-Charentes pour l'ONF, l'Office national des forêts.
Ah oui, avec cette dernière question et puis surtout aussi des petites choses à retenir. On a parlé de la pluie en tout début d'émission. Vous nous avez dit que bon, ça faisait quand même du bien, voilà, pour les sols, pour les forêts, pour les arbres. Attention quand même, il y a beaucoup de choses en ce qui concerne l'impact du changement climatique.
Oui, tout à fait. Là, on arrive dans le printemps. Après le printemps vient l'été, et donc on devrait arriver quand même vers une période de météo plutôt ensoleillée et qui va devenir probablement de plus en plus chaude. Et donc on va s'approcher progressivement du risque incendie. Et donc il est extrêmement important, voilà, de faire preuve finalement de citoyenneté. Et donc voilà, d'éviter de fumer en forêt. D'éviter du coup de faire des feux de camp et puis vraiment de prendre soin à notre écosystème et notamment à la forêt. Donc sur cette période finalement estivale, à l'ONF avec nos collègues pompiers, avec les services de la préfecture, on met en place finalement une période de veille à peu près du 15 juin au 15 septembre où on va surveiller les indices feu météo et en fonction de ces indices, hein, maintenant c'est assez connu, hein, vous avez pu connaître en 2023 la météo des forêts, en fonction de ces indices finalement, qui sont un peu précisés massif par massif, on a la chance d'avoir une station météo en forêt de la Coubre, on va mesurer le taux d'humidité de la végétation qui affine finalement les analyses météo de Météo France, on va programmer des patrouilles. Donc des patrouilles de surveillance et de contrôle, hein, et puis des patrouilles de surveillance et de première intervention sur feu naissant, et là ce sont les collègues forestiers, les équipes de terrain de l'ONF qui sortent finalement pour sensibiliser la population au risque incendie. C'est d'abord de l'information, c'est d'abord de la pédagogie, c'est d'abord de la communication et c'est seulement de la répression quand on se rend compte qu'il y a vraiment des points noirs ou un risque peut-être important pour le massif forestier. Et là, on va mobiliser nos collègues pompiers, nos collègues gendarmes pour que finalement cet écosystème soit protégé.
Et puis Antoine Jette, pour conclure, on peut rappeler les règles de bonne conduite aussi en randonnée. On parlait d'utiliser voilà les sentiers, les chemins de randonnée. Ça paraît bête, dit comme ça, mais c'est très important de les respecter en fait.
Oui, c'est très important. Alors la première des raisons, c'est un peu comme en montagne, hein. Il faut préparer sa randonnée parce que on peut se retrouver en forêt sur des zones où on ne capte pas. Et donc votre téléphone portable qui vous est si cher finalement se trouve inutile et le GPS qui est bien souvent fort agréable à utiliser, se retrouve inopérant. Donc préparez votre itinéraire avec une bonne vieille carte IGN, c'est plutôt efficace. Et puis surtout, restez dans les sentiers pour éviter de vous perdre et signaler l'endroit où vous allez vous promener. C'est pareil, hein, c'est comme en montagne. Si jamais vous arrive une bricole, voilà, une entorse, quelque chose de bénin, ça permet tout de suite finalement à vos proches et aux secours de vous localiser et de mettre en place finalement un périmètre de recherche relativement resserré.
Bah merci en tout cas pour tous ces conseils, Antoine Bled. Merci beaucoup d'être passé ce matin par France Bleu La Rochelle. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'agence territoriale Poitou-Charentes pour l'Office national des forêts. Merci pour les conseils.
Merci à vous.
À bientôt.
Au revoir.
Vous pouvez réécouter cette émission sur francebleu.fr. Demain dans votre service.
Demain, on parlera des ovnis, figurez-vous. Mais oui, avec
on sera
avec
dans l'observation notre... encore.
Exactement. Si vous avez peut-être déjà été témoin de phénomènes un peu étranges dans le ciel, vous pourrez témoigner demain à partir de 9h.
À votre service, avec les résidentiels. Résidence Service Senior, 8 route de Rochefort à Saint-Sulpice-de-Royans. Plus d'infos sur www.residentiel.fr.